Bienvenue sur France Inter et bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 14 octobre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, ciel orangé et alerte rouge. Épisode de pollution aux particules fines en Île-de-France. En cette journée nationale de la qualité de l'air, personne n'est à l'abri de la pollution. L'impact existe, on va le voir, même à petite dose, après les autres titres, Anaïs.
Des médicaments inefficaces, voire dangereux, peut-être expérimentés sur des malades du Covid au Brésil. En France, dernière journée de gratuité des tests. Nouveau défi pour Fort Boyard, trouver des fonds pour sa restauration. Et puis l'hommage XXL à Christian Boltanski, ses œuvres majeures exposées au Louvre, au Centre Pompidou et à Versailles.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, avec vous Léa.
Une femme, ou plutôt une sage-femme extraordinaire. Elle s'appelle Chantal Birman. Elle a consacré sa vie à défendre le droit des femmes et à réparer les femmes fragilisées pendant leur maternité. Elle est l'héroïne solaire d'un documentaire qui sort dans une semaine, À la vie, sous titre On ne naît pas mère, on le devient. C'est bien vrai. Chantal Birman sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour un grand entretien aujourd'hui en forme de débat avec le politologue Dominique Régnier et l'historien Pascal Blanchard autour de la question de l'identité française qui, vous le savez, domine la pré-campagne présidentielle. Vos questions dès maintenant au Standard d'Inter, 01 45 24 7000.
France Inter. Le cœur de l'Île-de-France en alerte à la pollution. Air Parif colore en rouge sa carte en cette journée nationale de la qualité de l'air. Des millions de personnes impactées, dont la moitié ouest de la capitale. Trop de particules fines dans l'air, les plus dangereuses. Selon un rapport publié aujourd'hui par l'UNICEF et le réseau Action Climat, les trois quarts des enfants français respirent un air trop pollué, car ils habitent majoritairement dans les villes. Julien Morcelli est monté à bord du ballon de Paris qui mesure la qualité de l'air au-dessus du parc André Citroën, reportage.
À 150 mètres du sol, en face d'un ciel orangé, la pollution de l'air saute aux yeux. Mathieu Gobi, cofondateur d'Aérophile, la société en charge de l'exploitation du ballon de Paris.
On voit vraiment une sorte de smog, c'est ce mélange entre de la brume et de la pollution qui vient se piéger dans la brume.
Pour améliorer la qualité de l'air, l'OMS vient de diviser par deux ses seuils de référence concernant le taux de particules fines présentes dans l'air. Le hic, c'est que les nouveaux seuils sont tellement faibles que les appareils d'analyse de qualité de l'air ne peuvent pas les mesurer, prévient Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS.
Si on veut mesurer une moyenne de 5 microgrammes avec un appareil qui a une incertitude de quelques microgrammes, la valeur qu'on veut mesurer est très proche de l'incertitude. Donc ce sera assez difficile de dire si on respecte ces nouvelles recommandations. Si on est un peu au-dessus ou un peu en dessous, il faudra probablement donner des barres d'erreur.
Pourtant, la pollution de l'air est un facteur de risque, de mortalité, notamment cardiovasculaire, neurologique, mais pas seulement, prévient le docteur Pierre Souvé, cardiologue et président de l'association Santé Environnement France.
Personne n'est à l'abri de la pollution de l'air, même si vous vous pensez en bonne santé. Et il n'y a pas de seuil qui dise que vous n'êtes pas à l'abri. Parce que même à petite dose, on avait peu d'études avant sur le sujet, et bien il y a un impact sur la mortalité globale.
La réduction des pics de pollution passe par une diminution des véhicules à moteur thermique, des chauffages à bois et des activités industrielles. Réduction drastique.
Et pour rendre le transport plus propre dans les villes, le président a beau avoir annoncé l'objectif de produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides d'ici 10 ans. Encore faut-il qu'ils roulent. Les loueurs de voitures, à qui la loi impose d'avoir 40% de leur flotte électrique d'ici à 6 ans, se plaignent d'une moindre rentabilité et constatent que les clients ont du mal à s'y mettre. Le secteur interpelle donc le gouvernement, Claire Chaudière.
L'électrification du parc de location de voitures est bel et bien lancée, martèle la profession. Déjà 26% de véhicules électriques et hybrides. Mais il y a un hic, ces voitures sont deux fois moins louées que les autres, regrette Guirec Grand-Clément, à la tête d'Enterprise Rent-A-Car et porte-parole du Conseil national des professions de l'automobile.
Une des frilosités, c'est est-ce que je vais pouvoir recharger ce véhicule? Est-ce que je vais avoir une borne quand je vais en avoir besoin? Est-ce que cette borne va marcher?
Voilà, donc on est parti pour notre trajet donc de Chamonix jusqu'à Nîmes, 400 km.
L'été 2021 d'ailleurs était l'occasion pour nombre de youtubeurs spécialisés de faire des essais parfois rocambolesques sur de longs trajets.
Les bornes ne sont pas forcément à mi-parcours, ce qui veut dire plutôt deux arrêts. Ça met du challenge.
Les loueurs de voitures demandent donc l'accélération de l'installation de ces bornes. 43 000, on est loin de l'objectif de 100 000 initialement fixé pour 2021, mais ils proposent aussi la mise en place d'un nouvel outil, d'une nouvelle aide, un chèque location électrique.
Amener un certain nombre de clients qui n'ont jamais essayé acheter un véhicule électrique, de pouvoir l'essayer en toute tranquillité et qu'ils puissent adopter comme leur prochain véhicule, tranquillement, sur un jour, deux jours, trois jours.
Le temps pour l'usager de se convertir en douceur, de se rassurer au passage.
Et voilà, on est à Nîmes, mission réussie.
Et donc de faire d'une pierre deux coups, verdir le parc et pour les agences de location en finir avec le manque à gagner.
Précision de Claire Chaudière.
France Inter, il est 7h05, encore beaucoup de questions ce matin, Anaïs, en Norvège.
Après l'attaque hier soir dans le sud-est du pays à Kongsberg, 5 personnes mortes, 2 autres blessées par un homme armé d'un arc et de flèches, peut-être un acte terroriste selon les autorités. Le suspect interpellé n'a pas encore été interrogé. L'option militaire américaine contre l'Iran, pour la première fois clairement brandie par l'administration Biden, le secrétaire d'État américain aux côtés de son homologue israélien hier, nous n'avons pas constaté de volonté de dialogue de la part de l'Iran, dit Anthony Blinken. Le négociateur européen est à Téhéran aujourd'hui pour relancer les négociations afin d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Au Brésil, est-on en train de découvrir un gigantesque scandale sanitaire sur le dos des 600 000 victimes du Covid? Le comité d'éthique de l'UNESCO soupçonne l'administration Bolsonaro d'avoir expérimenté des traitements inefficaces, voire dangereux, contre l'avis des experts et de l'OMS. Une commission d'enquête parlementaire rendra ses conclusions mardi, Olivier Poujade.
Il y a d'abord eu le kit Covid, cocktail de médicaments à base de chloroquine ou d'ivermectine qui, dans certains cas, selon les témoignages de médecins recueillis par la commission d'enquête, aurait été administré sans même en informer les patients. Plusieurs milliers de personnes passées par la chaîne hospitalière Prevent Senior, accusées aujourd'hui par les lanceurs d'alerte d'avoir dissimulé la mort de 9 malades ayant suivi ce traitement précoce contre le Covid, traitement dont Jair Bolsonaro faisait encore la promotion à la tribune des Nations Unies le 20 septembre dernier.
Depuis le début de la pandémie, nous encourageons les médecins à être autonomes dans leur recherche de traitements précoces, en accord avec les recommandations de notre Conseil fédéral de médecine. Nous ne comprenons pas pourquoi de nombreux pays se sont opposés aux traitements anticipés.
L'UNESCO s'inquiète de son côté des tests effectués par les chercheurs brésiliens à partir de proxalutamide, une molécule censée affaiblir la propagation du virus. La commission parlementaire enquête sur la mort suspecte de 200 personnes, des expériences qualifiées d'extrêmement graves par l'UNESCO si elle venait à être confirmée.
Au Québec, la vaccination obligatoire des soignants reportée d'un mois. Ils seront suspendus sans solde s'ils ne sont pas vaccinés au 15 novembre. En France, c'est demain que l'obligation vaccinale entre en vigueur pour 2 700 000 salariés. Et aujourd'hui, dernière journée de tests gratuits. À partir de demain, pour les 7 millions d'adultes partiellement ou non vaccinés, ce sera entre 22 et 44 euros pour le dépistage. Lundi, les écoliers de 12 nouveaux départements pourront tomber le masque, ce qui deviendra la règle dans la grande majorité du pays. Enfin, cette nuit, le Sénat a rejeté une proposition des socialistes visant à instaurer la vaccination obligatoire pour tous. Les socialistes qui investissent ce soir leur candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo, votent dans les fédérations à partir de 17h. Résultat sans surprise dans la soirée, son seul concurrent, Stéphane Le Foll, reconnaît que la messe est dite. À 6 mois de l'élection, quel bilan d'Emmanuel Macron concernant la gouvernance? Lui qui voulait réduire les cabinets ministériels pour privilégier les administrations. On apprend, Yael Gauss, dans le projet de loi de finances actuellement débattu au Parlement, que le nombre de conseillers ministériels a bondi de 76% en 2 ans.
Changer les pratiques politiques, gouverner autrement, c'était l'un des marqueurs du candidat Emmanuel Macron, comme ce 12 mars 2017 sur TF1.
Je constituerai un gouvernement de 15 membres, maximum.
Aujourd'hui, l'architecture du gouvernement Castex ne correspond plus du tout à la promesse initiale. Avec 42 membres, c'est l'équipe la plus étoffée depuis le premier gouvernement Juppé en 1995. Et qui dit plus de ministres, dit plus de conseillers. Mais cela correspond à un vrai virage politique assumé, acté dans le décret du 11 juillet 2020. Alors que la règle jusqu'à cette date était de limiter à 5 le nombre de collaborateurs par secrétaire d'État, 8 pour les ministres délégués et 10 pour ceux de plein exercice, on est passé respectivement à 8, 13 et 15. Besoin de conseillers pour gérer les relations avec les élus locaux, avec le Parlement, ça c'est l'effet gilet jaune, et de collaborateurs chargés du suivi des réformes, ça c'est l'effet président qui veut des résultats, le dernier kilomètre. Une inflation qui reflète aussi la difficulté à mettre en place le fameux spoil system. L'administration centrale ne s'est pas substituée habitués au cabinet plus politique. 570 conseillers ministériels, c'était 615 sous François Fillon, 722 sous Jean-Pierre Raffarin. À Matignon, on insiste sur les progrès de la parité, 42% de femmes contre 36% il y a deux ans.
Merci les précisions de Yael Gauz.
Il est 7h10, c'est le fort le plus célèbre de France, Anaïs, mais il crie misère.
Fort Boyard, Vauban l'avait trouvé trop difficile à ériger. Napoléon en ordonna la construction et c'est finalement la télé qu'il fait vivre aujourd'hui. Sauf que maintenant que les tournages sont terminés, la saison des travaux débute et il y a urgence. La houle et les vagues fragilisent le bâtiment au large de La Rochelle. De grands travaux sont envisagés, mais il faut trouver les financements, Mathilde Hémy.
Au 19e siècle, le fort n'était pas si rond, car sur un côté, un brise-mer formait un V pour casser les vagues. En 13 ans, Édouard Gomez-Vidal, le capitaine du bateau de Fort Boyard, a vu la structure se dégrader.
Le brise-lame, il dévie les vagues qui viennent frapper maintenant sur le fort, de chaque côté, au nord et au sud. Il restait quelques pierres qui collaient au fort à l'origine, et maintenant la mer a vraiment tout emmené.
Il faudra de lourds travaux. Dans 2-3 ans, alerte la Charente maritime, propriétaire du monument, Sylvie Marcilly, présidente du conseil départemental sur France Bleu La Rochelle.
L'objectif de ces travaux sur le long terme vise à reconstituer cet éperon. Et puis, à l'arrière, il s'agit de reconstruire le havre d'accostage qui existait autrefois. On est en train de faire des estimations, mais on va parler de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Il faudra même peut-être faire un appel aux dons, dit-elle, en plus des financements de l'État et des collectivités. Une nécessité pour l'avenir, dit Édouard Gomez-Vidal, le pilote du bateau.
Ça va ouvrir la possibilité à d'autres navires d'accéder au fort. Si un jour les émissions s'arrêtent, le fort sera peut-être visitable. Et ça pourrait rendre aussi l'aspect naturel du fort, en imaginant qu'on enlève la plateforme.
Des travaux sont déjà en cours sur l'héliport, suivront les passerelles intérieures en bois et autour de la salle du trésor. Elles aussi des stars du jeu télévisé.
Allez, ça aussi c'est du sport. Du vrai, le Tour de France tracé 2022 dévoilé aujourd'hui à la mi-journée. Le retour de l'épreuve féminine après 12 ans d'absence. On en parle dans le journal de 7h30. Il est décédé il y a tout juste 3 mois. Christian Boltanski nous quittait le 14 juillet dernier. Pour ce géant de l'art contemporain, il fallait bien un hommage exceptionnel. Le Centre Pompidou, le Château de Versailles et le Musée du Louvre exposent pour l'occasion plusieurs de ses œuvres majeures. Lui qui a travaillé sur la condition mortelle de l'homme et le temps qui passe, Isabelle Pasquier a revu avec émotion l'horloge parlante créée en 2009.
Au quatrième top, il sera 9h40.
Cette horloge parlante qui égrène le temps toutes les 10 secondes, c'est une installation de Christian Boltanski qui cristallise son impossible lutte contre le temps. Et dans la gothique chapelle royale, le décalage est glaçant. On y retrouve, très émue, la grande artiste Annette Messager, compagne de Christian Boltanski.
C'est une des œuvres les plus effrayantes. On n'y peut rien. Et c'est un robot qui nous indique que nous ne sommes que de passage.
Autre choc au Louvre, dans la Grande Galerie, juste en face des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, les archives de Christian Boltanski, soit plus de 600 boîtes à gâteaux métalliques rouillées qui gardent secrètement des objets de sa vie. Une œuvre contre l'oubli et Annette Messager nous confie un secret.
Quelqu'un lui avait dit que Rodin, pour qu'il y ait une belle patine sur ses sculptures, il urinait sur ses sculptures. Donc Christian, de temps en temps... Alors, si je dis ça, la directrice du Louvre va dire « ça va contaminer la Joconde, je sais pas quoi, enfin... » Mais enfin, ça m'amuse de penser que je voyais Christian uriner sur ses boîtes et qu'elle se retrouve au Louvre.
Christian Boltanski qui voulait, à travers les petites mémoires de chacun, dessiner une forme fragile de mémoire de l'humanité.
Eh ben, on en apprend des choses, Boltanski, au château de Versailles jusqu'au 6 novembre. Pour le Louvre, c'est jusqu'en janvier, au centre Pompidou, jusqu'en avril.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes, quand les plantes grasses remplacent la vigne.